bonjour et bienvenue pour ce nouveau message de l'église Hillsong France. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter www.hillsong.fr.
Laisse-moi te dire ceci, le Seigneur veut nous libérer tout autant que nous sommes de tous nos fardeaux. Et pour ça, le Seigneur m'a donné un message pour nous qui s'intitule « Passe de l'inquiétude à la paix de Dieu ». Passe de l'inquiétude à la paix de Dieu et on va étudier un petit passage qui se trouve dans Philippiens 4. Ça sera notre fil rouge et on va essayer de le décortiquer dans le temps qui nous est imparti. Et si vous avez vos Bibles, venez avec moi donc dans Philippiens 4 au verset 6 qui nous dit ceci « Ne vous inquiétez de rien ». Et juste pour me donner le sentiment qu'on est tous ensemble malgré la distance, est-ce que vous pouvez répéter avec moi « Ne vous inquiétez de rien ». Et si jamais tu es peut-être assis à côté d'un voisin, regarde-le dans les yeux et dis-lui « Voisin, ne t'inquiète de rien ». C'est particulier parce que quand on lit ce genre de passage, on a comme une petite voix dans la tête qui résonne et qui nous dit « Cause toujours ». C'est un peu comme si au moment où on lit la Bible, ce genre de passage, on a l'inquiétude, on a l'angoisse, on a la peur qui se rassemble et qui nous regarde et qui nous disent « On se retrouve après, à la fin de ta lecture ». Et dès qu'on finit de lire notre Bible, ils accourent tous et nous disent « C'est bon, t'as fini ? Allez, on rentre maintenant ensemble. » Et nous voilà peut-être venus chargés, fatigués devant Dieu et malheureusement, pour beaucoup d'entre nous en tout cas, on repart tout autant chargé qu'on était venu. Mais j'ai une bonne nouvelle. La Bible nous dit « Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre ». Alors peut-être que tu t'es connecté ce matin et que tu es chargé. Tu es chargé, tu te sens lourd émotionnellement, physiquement, spirituellement. Et si c'est le cas, laisse-moi te dire que le Seigneur veut te libérer, veut te délivrer de ce poids. Alors, on continue dans la lecture de notre passage de Philippiens 4 au verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. » Juste avant de rentrer dans le détail de ce passage, je voulais préciser simplement deux choses que ce passage ne nous dit pas. La première, il n'est pas écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. » Point. Je dis ça parce qu'on est tellement prompt souvent, dès qu'il nous arrive quelque chose, à courir voir nos amis, à leur raconter tout ce qui nous arrive. Et je ne dis pas que c'est mauvais, au contraire. C'est tellement précieux d'avoir des amis sur qui on peut compter, en tout cas, surtout quand ils nous rapprochent de Christ. Simplement, ce que ce passage est en train de nous dire, c'est que le Seigneur ne veut pas être toujours le dernier au courant des choses qui nous arrivent dans notre vie. Il veut pas simplement que dès qu'il nous arrive quelque chose, on aille voir les autres, on aille se confier aux autres avant de venir se confier à lui. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment ? Par des prières, des supplications. Et c'est la deuxième chose que ce passage ne nous dit pas. Il n'est pas écrit par des prières, des supplications ou avec des actions de grâce. C'est tellement important de comprendre que le bloc de la prière et de la supplication et l'action de grâce ne sont pas substituables, ils sont complémentaires. La prière ne se substitue pas à l'action de grâce. L'action de grâce ne se substitue pas à la prière. C'est tellement important de comprendre. Alors, on va voir un premier point sur la prière. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Alors, notre point 1, ça sera la prière qui touche le cœur de Dieu. Vous savez, la prière est un thème qui est éminemment passionnant. Personnellement, c'est un sujet que j'étudie vraiment en ce moment. Et vous savez, la Bible nous dit dans Éphésiens 6 au verset 18... Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. Faites toutes sortes de prières. C'est dire à quel point est-ce qu'il existe des sortes de prières, des types de prières. Vous savez, il y a des prières de combat, on a des prières d'intercession et j'en profite en parenthèse pour remercier du fond du cœur notre équipe de prières tellement précieuse dans la vie de notre Église. La supplication dont il est question dans ce passage est également un type de prière. C'est le mot « déicis » qui veut dire « pétition ». Mais je vous propose quelque chose ce matin, c'est que plutôt que de se lancer dans une étude théologique en profondeur de la prière, et si on revenait aux fondamentaux, c'est tellement important parfois de revenir à la base. Vous savez, pour qu'un édifice s'élève avec perfection, il faut que ses fondations soient solides. Alors on va revenir dans ce premier point, au fondement de la prière. Et les fondements de la prière nous ont été enseignés par le boss, par Christ lui-même. Luc 11, verset 1, il est écrit « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites Père. Et ce même passage est relaté dans Matthieu 6, au verset 9. C'est Jésus qui dit « Voici comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux ». On connaît tous cette prière dite du Notre Père et je vous propose en tout cas dans ce premier point d'aller dans deux petits sous-points. Merci à Steven en tout cas pour ces petits A et ces petits B, ils me sont tellement précieux ce matin. On va voir ensemble un premier sous-point. Donc la prière qui plaît à Dieu, sous-point « Notre Père ». Notre Père. Je crois que ces premiers mots que Jésus prononce sont sûrement parmi les plus importants qu'il est en train d'enseigner à ses disciples. Vous savez, les disciples viennent le voir et lui disent « Enseigne-nous à prier ». La première chose qu'il leur dit, c'est « Quand vous priez, dites Père ». En fait, Jésus est en train de s'adresser à des personnes qui connaissent Dieu, qui connaissent Dieu et qui l'appellent de tellement de façons. Il appelle El Shaddai, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il appelle Elohim, le Créateur Tout-Puissant. Il appelle Yahweh, le Grand Je Suis. Pourtant, Jésus va révolutionner littéralement la façon dont ses disciples ont appris à prier. Il va leur dire simplement « Hé les gars, le grand Dieu des cieux, ce Dieu que vous vénérez, que vous priez, en fait, c'est votre Père. Et quand vous priez, appelez-le Père. » C'est paradoxal parce que Jésus, à ce moment-là, est en train de s'adresser à des disciples et il leur dit « Les gars, le Seigneur a changé votre statut. Votre statut a complètement changé. Vous êtes passé du stade de disciple au stade d'enfant. Et en étant fils et fille, vous bénéficiez de bien plus. Et à toi qui m'écoutes également, j'ai envie de te dire ceci. Le Seigneur a un message de la part de Dieu pour toi. Je suis ton Père. Dieu est notre Père. Et c'est important de réaliser cela. Vous savez, je pense que beaucoup de gens sont comme moi. Quand je suis occupé, en général, je mets mon téléphone de côté et surtout, je filtre les appels qui rentrent. Mais il y a une personne dans mon entourage qui a toutes mes faveurs. À cette personne-là, peu importe le moment où elle appelle, je suis prompt à décrocher. Je lui ai même mis une sonnerie spéciale de sorte à ce que même quand mon téléphone n'est pas à côté de moi, je sais que mon épouse est en train de m'appeler et je décroche. Et j'ai l'impression que c'est un peu cela que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples. Il leur dit... Les gars, arrêtez d'appeler Dieu en masqué, alors qu'il a votre numéro de téléphone inscrit dans son répertoire avec écrit dessus « Mon fils, ma fille ». Quand vous vous adressez à lui, dites « Père, il y a tellement d'avantages à être les enfants de Dieu ». On va lire ensemble un passage dans Matthieu 6 au verset 25 qui nous dit ceci. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire, avec quoi allons-nous nous habiller ?» La vie ne vaut-elle pas plus que de la nourriture et le corps ne vaut-il pas bien plus que des vêtements? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Puis au verset 31, il nous dit ceci, « Ne vous inquiétez donc pas de... et ne dites pas... Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous nous habillerons? Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. » Écoutez bien, il dit, mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Une deuxième chose que Jésus va enseigner à ses disciples dans cette prière dite du Notre Père, je vous rappelle, il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et il dit cette phrase, il dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus est en train de nous enseigner une deuxième chose tellement, tellement clé quand on prie. Allons chercher la volonté de Dieu principalement. Vous savez, on a tous une volonté personnelle, mais Dieu a également une volonté. D'ailleurs, la Bible nous dit ceci dans Romains 12 au verset 2 au sujet de la volonté de Dieu. Il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est un peu comme si je disais à Dieu que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est faite au ciel. Et vous savez, la volonté de Dieu au ciel, elle est parfaite. Et c'est tellement important, au moment où on vient à Dieu, même malgré nos inquiétudes, de venir toujours en soumettant notre volonté à la volonté de Dieu. Seigneur, si c'est ta volonté, alors que cette relation aboutisse au mariage. Seigneur, si c'est ta volonté, alors que ce travail pour lequel je suis en train de m'inquiéter en ce moment, Seigneur, qu'il aboutisse. Mais sinon, qu'il en soit fait selon ta volonté. C'est tellement important de chercher la volonté de Dieu. Vous savez, on dit souvent que le Seigneur ne se hâte pas d'accomplir nos prières. En tout cas, je dirais nos prières toutes simples. Mais le Seigneur se hâte d'accomplir ses promesses. Il est dit dans la parole, dans Jérémie 1, au verset 12, « L'Éternel me dit... « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Dieu est fidèle. Et Dieu est fidèle surtout à sa prière, à sa parole. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Et notre petit sous-point, ensuite, ça sera l'action de grâce. Ou plutôt notre deuxième partie, ça sera l'action de grâce. Certains le savent, comme je disais d'ailleurs en introduction, j'ai un petit garçon qui a presque maintenant 2 ans. Et il y a 2 raisons pour lesquelles je suis tellement fier. La première, c'est que l'un des premiers mots que mon fils a prononcé, c'était le mot « Amen ». Le jour où j'ai entendu mon fils prononcer « Amen », j'ai dit « Seigneur, c'est bon, on a réussi ». Mais il y a une deuxième raison pour laquelle on est tellement fiers, ma femme et moi, c'est que l'un des premiers mots aussi qu'on lui a appris à dire, c'est « Merci ». Vous savez, l'action de grâce est quelque chose de capital. L'action de grâce est tellement importante aux yeux de Dieu. Vous savez, l'action de grâce, c'est simplement le fait d'être reconnaissant à Dieu. C'est le fait de savoir et d'apprendre régulièrement à lui dire merci. Le fait d'avoir cette mentalité d'être toujours reconnaissant. C'est vrai qu'en tant que Français, on nous dit souvent qu'on est souvent en train de se plaindre. Et j'entends d'ailleurs des gens me dire, mais c'est parce qu'il y a des raisons de se plaindre. Bien entendu qu'on a toujours des raisons de se plaindre. Mais vous savez, et si on se lançait tous ensemble ce petit défi, durant simplement 1 semaine, qu'à chaque fois où on est sur le point de se plaindre, qu'on remplace la plainte par des actions de grâce. Merci Seigneur pour notre gouvernement. Il ne fait pas tout parfaitement, mais on est reconnaissant pour notre gouvernement. Merci Seigneur pour notre église. Merci Seigneur pour ma famille. Il est tellement important d'avoir un cœur rempli d'actions de grâce. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 nous dit ceci. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il y a 4 points, 4 choses que l'action de grâce fait. La première, c'est que l'action de grâce nous défocalise de notre inquiétude, nous défocalise de notre problème. Vous savez, au moment où on remercie Dieu, on est en train de l'élever. On est en train de dire à Dieu, Seigneur, tu es plus grand que ma situation, tu es plus grand que mon problème. Et au moment où j'élève Dieu, je me rends compte que ce problème-là est tellement infiniment plus petit que lui. L'action de grâce te défocalise de ta situation. Le deuxième point, c'est que l'action de grâce t'aide à te rappeler des bienfaits de Dieu. C'est tellement important. Vous savez, au moment où on est en train de broyer du noir, où on passe par des saisons difficiles, c'est tellement important de se souvenir qu'il y a peut-être simplement 1 semaine de cela, on était à genoux en train de demander quelque chose à Dieu et qu'il a exaucé. L'action de grâce t'aide à te rappeler de la fidélité de ton Dieu, simplement. Et te dire, Seigneur, s'il l'a fait par le passé, et je suis sûr qu'il va le refaire encore. L'action de grâce nous aide à nous rappeler des bienfaits de Dieu. Le psaume 103, verset 2 dit, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » On est tellement prompt, à cause de nos inquiétudes, à oublier tout ce que Dieu a fait dans le passé. Je me souviens de ta bonté. La troisième chose que l'action de grâce fait, c'est que l'action de grâce brise les chaînes. Vous savez, vous connaissez tous l'histoire de Paul et Silas, dont la louange, l'action de grâce, a littéralement brisé les chaînes de la prison. Acte 16, versets 25 à 26 nous dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens des prisonniers furent rompus. » Peu importe les chaînes dans lesquelles tu es aujourd'hui, ton action de grâce peut complètement te libérer de ces chaînes au nom de Jésus. Et l'action de grâce t'aide à recevoir encore plus que ce pour quoi tu pries. Vous connaissez l'histoire dans Luc 17 au verset 11 à 19 où la Bible nous dit qu'il y avait 10 lépreux qui sont venus voir Jésus parce qu'ils étaient malades. Et Jésus va les guérir sur leur chemin de retour. Et il y en a un seul qui revient voir Jésus pour lui dire merci. Et Jésus lui dit ceci, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit, « Lève-toi, ta foi t'a sauvé. » C'est particulier parce qu'ils étaient tous venus avec un sujet à Dieu, c'était la guérison. Mais celui qui a exprimé à Dieu l'action de grâce, il n'a pas reçu simplement la guérison, il a reçu bien plus que la guérison. Il a reçu le salut, lui. Et toi ? Pourquoi est-ce que tu es reconnaissant malgré la situation dans laquelle tu es aujourd'hui? Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce. Et toujours dans le sujet de l'action de grâce, c'est intéressant de se poser la question, où est-ce que je positionne l'action de grâce? Bien sûr, on le voit dans l'exemple des 10 lépreux, que à chaque fois que Dieu fait quelque chose pour toi, rappelle-toi de lui dire merci. Mais il y a un autre secret que Jésus va nous enseigner. C'est que l'action de grâce s'exprime également avant d'avoir vu l'accomplissement de notre prière. On voit deux exemples comme ça de Jésus, un dans Jean 11 au verset 41-43 dans l'histoire de Lazare et un autre dans cette histoire fameuse qu'on connaît tous, l'histoire des 5 pains et des 2 poissons. Dans les deux histoires, il nous est dit, Jésus a rendu grâce et ensuite le miracle est apparu. Il faut qu'on apprenne à rendre grâce à Dieu. Donc pour revenir à notre passage du jour qui nous dit, Philippiens 4, verset 6, vous vous souvenez, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec action de grâce. » Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur cet ami ou ce collègue qui est tout le temps en train d'anticiper ce que vous allez dire. À peine vous avez commencé à parler, qu'il complète déjà votre phrase. À peine vous avez commencé à exprimer une question, qu'il est déjà en train de répondre. Moi, c'est un peu ce sentiment que ce passage me fait. Quand j'entends « Jean-Louis, ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce. » À ce moment-là, j'ai envie de dire à Dieu, « Seigneur, c'est bon. Tu n'as pas besoin de terminer ta phrase, en réalité. Je sais ce que tu vas dire. Si tu m'as promis de ne m'inquiéter de rien, mais qu'en toute chose, tu me dis, fais-moi connaître tes besoins, alors, ben c'est évident. C'est évident que la suite, ça sera quelque chose du genre « Et tous tes problèmes seront résolus. » Je suis persuadé que tu me promettras quelque chose comme ça. À la limite, peut-être que tu ne me donneras pas le timing. Mes problèmes seront résolus dans la semaine, dans le mois, plusieurs mois après. Mais en tout cas, je suis sûr, tu n'as pas besoin de continuer, Seigneur. Je suis sûr que tu me promets ça. Pourtant, ce n'est pas tout à fait ça que le passage nous dit. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce. Et le verset 7 nous dit, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera nos cœurs, vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu. C'est tout ce que tu as pour nous, Seigneur. On a fait tout ça pour ne même pas que tu nous promettes que l'objet de notre inquiétude nous sera enlevé de devant nous. La paix de Dieu. Et le passage nous dit, la paix de Dieu qui dépasse toute notre compréhension. On va venir à notre troisième point, la paix de Dieu. On lit ensemble dans Jean 14 au verset 27, c'est Jésus qui parle et qui nous dit « Je pars, mais je vous laisse la paix. Mais c'est ma paix que je vous donne. Ce cadeau n'a rien en commun avec ce que le monde peut donner avec sa paix à lui. C'est pourquoi cessez d'être inquiet et de vous laisser troubler, bannissez toute crainte de votre cœur. » On comprend bien là, à travers ce passage, que même s'il s'agit peut-être potentiellement du même mot, la paix de Dieu et la paix des hommes, la paix en tout cas qu'on connaît, n'ont absolument rien à voir en commun. Je ne sais pas si pour vous, si je vous posais la question dans le chat par exemple, à quoi est-ce que ressemble la paix pour vous? Si je vous demandais quelle est cette chose que vous avez envie de demander à Dieu en disant « Seigneur, si tu me donnes ça, c'est sûr, je serai en paix. » Mais imaginez, je gagne à l'euro-million et je prends toute ma famille, toute l'église, tous mes amis, on va sur une île déserte. Pour moi, c'est ça la paix. On chante des chants de louange toute la journée. Aucun de nous n'a de problème. Pour moi, c'est ça la paix. Sauf qu'il y a un problème avec ce scénario de la paix, c'est qu'il est tout bonnement irréaliste. En vérité, ça veut dire tout simplement que quand tout va bien, allez, j'ai la paix. Simplement, dès qu'il se passe quelque chose dans ma vie, je perds ma paix jusqu'à ce qu'une bonne chose encore m'arrive et je retrouve ma paix. C'est un scénario d'autant plus irréaliste que même la Bible nous dit qu'on va faire face à l'épreuve. Jacques 1, verset 2 à 4 nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. » Donc la Bible même nous annonce qu'on va faire face à l'épreuve, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait, accompli, sans faillir en rien. Est-ce que finalement, la scène qui nous explique le mieux ce passage de Philippiens 4 qu'on est en train d'étudier, c'est pas cette scène où Jésus est en train de marcher sur l'eau et son disciple Pierre lui dit « Seigneur, appelle-moi. » Matthieu 14, verset 28 à 31. Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Dans cette scène, on voit qu'il y a du vent, il y a de la tempête, mais malgré ça, Pierre continue d'avancer. malgré le vent qui représente peut-être les soucis de notre vie, la tempête qui représente tous les problèmes qui nous assaillent, malgré cela, tant que Pierre a les regards fixés sur Jésus, il continue d'avancer. Mais Pierre n'avance pas sur un sol dur, il avance sur l'eau. Il avance peut-être dans cette situation où les médecins t'ont dit que c'est une maladie, au stade terminal, il n'y a plus rien à faire pour toi. Il avance sur les eaux, cette situation où on t'a dit, mon gars là, techniquement, il n'y a plus rien à faire. Humainement parlant, c'est plus possible. Malgré ça, tant que Pierre garde les yeux fixés sur Christ, il continue d'avancer. Sauf qu'il y a un moment donné où la deadline se rapproche, où on se rend bien compte qu'on a prié, on ne voit pas les choses arriver et ça commence à être de plus en plus stressant. À un moment donné, Pierre réalise la situation dans laquelle il est et il détourne le regard de Jésus. La vérité, c'est que tu ne peux pas garder le regard fixé sur Jésus et en même temps constater ton problème. À un moment donné, Pierre perd Jésus de vue et il commence à couler. Il commence à couler et là, Jésus lui dit cette fameuse phrase « Pourquoi as-tu douté ?» Tant que tu gardes le regard fixé sur Jésus, tu continues d'avancer malgré les situations, malgré les circonstances de la vie. Et je sais que peut-être que certains vont me dire « Jean-Louis, t'es bien gentil, mais Jésus, il est où aujourd'hui ?» Moi, je ne le vois pas. Je veux bien le regarder, mais je ne le vois pas. Laisse-moi te dire ceci. La parole nous dit dans Jean 1, « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Et c'est cette parole qui s'est faite chair. Donc, si tu veux garder le regard fixé sur Jésus, garde le regard fixé sur sa parole. C'est la meilleure chose à faire. Garde le regard fixé sur la parole. Regarde ce que la Bible dit à ton sujet. Regarde toutes les promesses que la Bible dit par rapport à ta situation. Peut-être que tu fais face à la maladie. Ésaïe 53, verset 5 nous dit ceci. « Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. » Psaume 118, verset 7 nous dit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les bontés de l'Éternel. » Peut-être que tu fais face à une situation de trouble ce matin. Psaume 34, verset 18 à 19 nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Peut-être que tu fais face à un besoin de provision. Philippiens 4, verset 19 nous dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse, sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Et peut-être que tu es tout simplement fatigué. Matthieu 11, verset 28 nous dit, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Finalement, pour résumer, la paix de Dieu, ce n'est pas simplement l'absence de problème. Ce n'est pas simplement que quand tout va bien, je suis en paix. La chose que le Seigneur nous promet ce matin, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Et on a appris qu'il fallait appeler Seigneur, Dieu, notre Père. On a appris également qu'il fallait prier selon la volonté de Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. La promesse, c'est que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, gardera quoi ? Nos cœurs et nos pensées fixées sur Jésus. C'est ça la promesse de Dieu pour nous. Et j'ai envie de conclure avec un petit poème, une fois n'est pas coutume, un poème qui s'appelle « Des pas sur le sable », qui dit ceci. Une nuit, j'ai fait un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient les unes après les autres, toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque période de ma vie, il y avait deux paires de traces sur le sable. L'une était la mienne et l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuons à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes. Et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie. Les jours des plus grandes angoisses, des plus grandes peurs, des plus grandes douleurs. Je l'ai donc interrogé, « Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie. Et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé au moment où j'avais le plus besoin de toi. » Et le Seigneur me répondit, « Mon fils, tu m'es tellement précieux, je t'aime. Je ne t'aurai jamais abandonné, pas même une seule minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien c'était moi qui te portais. » Les amis, le Seigneur est fidèle. peu importe les situations par lesquelles on passe aujourd'hui, je ne suis pas simplement venu te promettre qu'à la fin de ce message, tout sera réglé. Mais je suis venu te promettre quelque chose d'encore meilleur. C'est que quelles que soient les situations de ta vie, Jésus veut faire un formidable échange avec toi. Que tu viennes avec tes soucis, tes inquiétudes et que tu les poses au pied de la croix. Et simplement, il veut te donner sa paix qui surpasse toute intelligence.
Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre église, merci de visiter www.hillsong.fr.